Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Hélène Torgemann à l'occasion de la remise pour la 4e édition du prix Jacques Ellul. Donc ce prix a été remis une première fois en 2019. C'était l'occasion de commémorer le 25e anniversaire de la disparition de Jacques Ellul, mais son œuvre est fort présente. Et elle a été illustrée, puisque c'est le but du prix, prolongée successivement par Olivier Rey, puis par David Colomb là, pour la propagande, et enfin, pour l'ensemble de son œuvre, par Jean-Luc Nancy. Et aujourd'hui, donc, c'est au tour d'Hélène Torgemann pour son livre « La croissance verte contre la nature », qui a l'unanimité du jury du prix Jacques Ellul, se voit décerner cette récompense. Hein, c'est un chèque doté de 1 000 euros. Et nous avons donc l'immense plaisir de nous entretenir avec elle. Et je la présente rapidement. Elle est économiste, elle est maître de conférences en économie à Paris-Sorbonne, si je ne dis pas de bêtises, habilité à diriger des recherches. Et je vais, selon la tradition, enfin, c'est une petite tradition au bout de 4 ans, lui poser quelques questions relatives à Jacques Ellul. Et ensuite, nous entrerons dans le détail de ce livre vraiment très intéressant, pour ne pas dire passionnant. Alors, première question très, très simple. Il y aura des questions générales et des questions précises. Vous aurez le choix d'y répondre par une autre question, de ne pas y répondre, ou d'y répondre longuement ou brièvement. Finalement, dans quelles conditions est-ce que vous avez été amené à rencontrer l'œuvre de Jacques Ellul, vous qui êtes économiste, et via quel livre ?
En fait, à la fin des années 90, c'était l'époque où les OGM commençaient vraiment à se répandre, et j'ai été extrêmement choquée de cette évolution. J'ai été même... d'un point de vue sensible, heurté par ça. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'interroger sur la technique, la place de la science et de la technique dans nos sociétés. Et il y a eu une conférence organisée par la revue L'Écologiste sur les OGM, enfin plutôt contre les OGM, en 2003 à Paris, où Jean-Luc Porquet, le journaliste du Carnet enchaîné, venait de sortir un livre qu'il est venu présenter qui s'appelait « Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu ». Et quand il a présenté ce livre, je me suis dit, bon, il faut que je le lise. Et j'ai lu son livre et je me suis dit, évidemment, je vais lire Jacques Ellul. Et en fait, c'est grâce au livre de Jean-Luc Porquet que j'ai découvert Ellul. Parce que, évidemment, chez les économistes, ce n'est pas une lecture traditionnelle du tout. Et quand j'ai lu Ellul, ça a été un choc intellectuel majeur. Je n'ai plus pu écrire pendant 2 ans. J'ai été paralysée par le pessimisme total. Et puis, petit à petit, il m'a fallu du temps pour réaménager ma pensée, pour intégrer l'œuvre d'Ellul et la critique de la technique. Parce qu'en tant qu'économiste hétérodoxe, alors je ne sais pas si vous savez très bien, la discipline économique est quand même très particulière. Elle est divisée, très très fortement divisée, entre un grand mouvement dominant, de pensée dominante, qu'on appelle l'orthodoxie, qui est pro-libéralisme, pro-marché, et c'est à peu près 90% de la profession. Et il y a à peu près 10% de la profession qu'on appelle les hétérodoxes, qui refusent cette vision-là, mais sur des bases plutôt keynésiennes, marxistes, donc contre le marché, contre l'omniprésence et l'omnipotence du marché. Et du coup, moi, j'étais tout à fait là-dedans, mais j'avais pas vraiment conscience de la critique. J'avais la critique du marché, oui, mais la critique de la technique, non. Je la sentais de manière très intuitive. Ça me heurtait, enfin, l'évolution de notre monde d'une manière tout à fait palpable me heurtait. Je trouvais ça très agressif les, enfin, pas du tout contre l'autonomie individuelle, contre l'autonomie, contre la liberté, mais j'avais pas les concepts pour vraiment théoriser cela. Et c'est en découvrant l'œuvre de Jacques Ellul que je me suis dit, moi, en tant qu'économiste, mon objet d'étude, c'était l'évolution du régime capitaliste, mais d'une manière plutôt, encore une fois, comme la plupart des hétérodoxes, de critique du marché. Et là, en lisant Ellul, je me suis dit, le capitalisme, ce n'est pas que le marché, c'est aussi la technique. Et du coup, ça fait 20 ans que j'essaye de développer, j'y suis pas encore, hein, mais que j'essaye de développer une approche du capitalisme fondée sur, en disant que le capitalisme, en fait, marche sur deux pieds, le marché et la technique. Et en fait, il faudrait rajouter l'État, vraisemblablement, derrière. Mais en tout cas, le marché et la technique sont les deux grands phénomènes sociaux qui sont consubstantiels au capitalisme industriel. Et voilà. Et du coup, Ellul m'a permis de penser ça. Mais encore une fois, et pour faire de la place à une pensée aussi énorme et foisonnante que celle d'Ellul, il m'a fallu plusieurs années avant d'arriver à intégrer sa pensée à mon corpus existant, qui encore une fois était plus axé sur la critique du marché, dans une vision un peu de Karl Polanyi, polanienne, voilà.
Alors, on le devine en vous écoutant, mais quel est le livre qui vous a le plus influencé, marqué
Les deux grands premiers, La technique ou l'enjeu du siècle et Le système technicien.
D'accord. Alors, justement, à ce propos, là, vous le créditez d'avoir mis le doigt sur ce qu'il appelait l'insécabilité de la technique, enfin, cette idée selon laquelle, contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne peut pas toucher à un élément du système sans, je dirais, remettre en cause l'ensemble, ou en tout cas sans modifier l'ensemble des paramètres. C'est quelque chose que vous avez trouvé dans...
La technique ou l'enjeu du siècle.
Dans La technique ou l'enjeu du siècle.
Il y a un chapitre qui s'appelle « Caractérologie de la technique », oui, où il définit donc un certain nombre de caractères de la technique moderne, au sens où il l'entend. Et il y a ce caractère insécable qui, en fait, me semble-t-il, permet de penser contre le sens commun. Le sens commun aujourd'hui qui est de dire la technique, en fait, est neutre, peu importe, enfin, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et justement, cette idée d'insécabilité permet de penser contre ce lieu commun que la technique est neutre. Puisque non, si elle est insécable, on a affaire donc à insécable, ça veut dire donc on ne peut pas la couper en petits morceaux en disant je prends cet aspect et au contraire je laisse de côté un autre aspect. Non, quand on prend une technique particulière, on prend tout, on ne prend pas seulement une technologie, on prend un ensemble, un système global et qui est insécable. Du coup, ce n'est pas neutre parce que la technique, une technique particulière vient avec des pratiques sociales particulières, avec des rapports sociaux particuliers, et tout cela suivent. Donc, par exemple, toujours pour revenir aux OGM, qui est une question, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions agricoles, si on en revient comme exemple assez emblématique aux OGM, cultiver des OGM, ça ne veut pas dire juste choisir une variété particulière plutôt qu'une autre, ça veut dire adopter toute une série de pratiques culturales. On ne peut pas faire des OGM en bio, ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire des OGM sur des petites parcelles, ça n'a aucun sens. Si on choisit de faire des OGM, on prend tout le système de l'agriculture industrielle dont on sait où il nous mène. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là que ce n'est pas neutre et que c'est insécable. Et donc ce concept m'a beaucoup aidé à penser cette question.
Oui, on le retrouve là vraiment au cœur de votre livre. D'ailleurs, vous avez anticipé cette question, le lien entre insécabilité et non-neutralité de la technique. Alors, la plupart de vos collègues, justement, partent sur la base, hein, et ne sont pas les seuls, hein. Je dirais que c'est généralement, quand on veut le faire comprendre de façon pédagogique, c'est la métaphore du couteau, le couteau qui sert à la fois à découper une part de tarte ou qu'on peut planter dans le dos de son voisin si on a une humeur belliqueuse. Bah, il en va exactement de même pour Ellul avec la technique, comme vous le dites. Vous le montrez surtout, vous l'illustrez bien avec les OGM, et pas seulement d'ailleurs avec les OGM. Et d'ailleurs, je note aussi que vous avez gardé, hein, c'est quelque chose qui est très émulien, vous avez, comment dire, refusé de céder à cette mode. Ça fait plus riche de dire technologie, alors que Ellul réservait le mot de technologie au discours sur la technique, à l'étude de la technique, à la propagande technicienne. Et puis, il y a un troisième élément aussi que nous avons trouvé très intéressant là, dans votre livre. Je l'ai trouvé aussi à titre personnel, parce que vous l'illustrez bien. C'est aussi l'autonomie, parce que bien sûr que les trois éléments sont liés, mais ils sont distincts. C'est-à-dire que vous montrez aussi que Ellul, là encore, à la différence de ses collègues, montre que la technique, finalement, elle n'est pas, comment dire, elle a pris son autonomie, et en particulier à l'égard de la morale. Hein. Alors, pour autant, c'est-à-dire, c'est l'idée que tout ce qui peut être fait le sera. Bon, ça, c'était l'axiome de Gabor. Hein. Tout ce qui peut être fait le sera. Bon, ben, le clonage, et pourquoi pas, et évidemment, le clonage humain. Avec un glissement dans nos sociétés, c'est que si on peut le faire, on va le faire. On doit le faire. Hein. Donc ça aussi, vous le montrez avec des exemples saisissants, mais je vais y venir. Juste une dernière question avant de quitter Ellul. Mais on ne le quittera pas, hein, on quittera, puisque votre démarche, et c'est le plus important, votre démarche est à nos yeux ellulienne. C'est votre droit le plus strict. Vous avez parlé de pessimisme tout à l'heure. Toutefois, vous lui reprochez, hein, une sorte de déterminisme absolu. Pourriez un petit peu développer cet aspect.
Il me semble qu'effectivement, il donne un tel poids à la technique dans la dynamique sociale qu'elle écrase tout le reste. Et là, pour ne pas être trop pessimiste, quelque part, c'est... Je me dis que c'est sûr que c'est effectivement très fort, très lourd. Ce sont des dynamiques très, très lourdes. Regardez, par exemple, avec le nucléaire aujourd'hui. Pour échapper au nucléaire, même si on veut, on peut pas. Il y a quelque chose, encore une fois, d'autonome dans le développement du nucléaire ou de tas d'autres techniques, d'ailleurs. Mais c'est peut-être plutôt d'un point de vue moral ou philosophique que je refuse de céder complètement à ça, en me disant on peut quand même peut-être faire quelque chose. Il y a des forces sociales qui existent qui peuvent éventuellement contrer en partie cela. Et puis je pense aussi, et là c'est plutôt, je parle en tant que chercheuse en sciences sociales, les sociétés contemporaines, mais je pense que c'est vrai de toutes les sociétés, sont des objets extrêmement complexes dont on ne peut pas vraiment prévoir les évolutions. Parce qu'il arrive toujours de l'inattendu, de l'imprévu, des effets non voulus de certaines démarches, de certaines actions. Et du coup, on peut toujours être surpris. C'est-à-dire qu'il y a ce potentiel, voilà, de surprise, d'ouverture. L'avenir n'est pas complètement écrit à l'avance. Et je continue à croire que les dynamiques sociales, comme les dynamiques naturelles d'ailleurs, ont un avenir ouvert. Ce n'est pas complètement programmé vers un destin sûr. Et voilà, donc en cela, je nuancerai un peu le déterminisme un peu excessif, à mon sens, de Jacques Ellul.
Toutefois, vous êtes d'accord avec Ellul en vous écoutant, parce qu'il y a toujours chez lui le dernier paragraphe du dernier chapitre, oui, qui laisse la porte ouverte, oui, toujours, commencer par changer de révolution. Oui. Et donc ce fil... Et toujours là, et cette ouverture, cette espérance aussi, par
c'est
ailleurs.
Ça, je pense que c'est une espérance, voilà, oui, qui vient de sa théologie.
Oui. En plus, ça, c'est voilà, les deux sont liés, mais de toute façon, il n'y a pas que ça. Mais bon, alors, en dépit de justement de ce que nous les mises en garde de Philippe Descola, que vous citez d'ailleurs abondamment, Vous avez gardé le concept de nature qui figure dans le titre, et vous l'avez utilisé avec beaucoup de précautions. Vous pouvez revenir sur la croissance verte contre la nature. Vous dites pas contre l'environnement, contre
l'environnement,
contre
déjà,
la planète,
ça va pas du tout. Voilà. L'environnement, évidemment, en suivant Descola mais d'autres, L'environnement, ça veut dire quelque chose qui est autour de nous et du coup auquel nous n'appartenons pas. Or, comme on peut déjà le sentir de manière intuitive, et alors c'est pas scientifique hein, ce que je dis du tout, mais je pense que ça correspond à une expérience que nous pouvons tous faire, de l'idée d'appartenir au règne des vivants, en quelque sorte. Et ça, ça m'est très cher. Ce règne des vivants, comment le dénommer? Jusqu'à présent, on l'a dénommé nature, pas environnement. Donc, on fait partie de la nature et on est dedans. Oui, Descola nous dit le concept de nature n'existe pas. Enfin, disons, je dirais pas qu'il n'existe pas, mais il prend différentes significations dans différentes cultures, certainement. Mais dans notre culture, nature, ça veut dire quelque chose. Et du coup, il y a un moment, on peut pas réécrire tout le dictionnaire. Et du coup, je me suis dit quand même que le terme de nature parle à tout le monde. Et avec la précaution de Descola de dire tout le monde n'entend pas la même chose par le terme nature, parce que selon les sociétés, on a des représentations différentes et des relations différentes avec la nature. Néanmoins, ça a quelque chose de direct, encore une fois, et d'intuitif de parler de nature. Et je voulais toucher, d'une part, je voulais toucher les gens et qu'ils se reconnaissent dans ce que je disais. Et d'autre part, encore une fois, c'est impossible de refaire tout le dictionnaire. Donc, j'ai gardé le mot de nature. Oui. Et d'accord. Parce que je trouve que c'est un très beau mot. Donc, voilà.
Si je disais que votre livre tend à démontrer, alors, est-ce que votre livre peut se résumer avec l'idée selon laquelle la croissance verte n'est qu'un oxymore? Est-ce que vous seriez d'accord avec ça?
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
D'accord. Et même chose, est-ce que je serais caricatural, simpliste, si je disais que tout votre livre, et alors on va rentrer dans des détails, tend à montrer que ce qu'on appelle croissance verte, développement durable, on pourrait sans doute y ajouter, je parle là vraiment sous votre contrôle, transition énergétique.
Écologique même.
J'ai rien dit. Tout ça, ce sont finalement différentes figures du capitalisme, celui que nous avons sous les yeux.
Tout à fait. C'est un nouveau régime de capitalisme, enfin une évolution, disons, du capitalisme contemporain, qui ne marque aucune rupture avec le régime dans lequel nous sommes et qui nous a menés à la catastrophe que l'on voit se profiler de plus en plus, de manière de plus en plus forte. Et oui, la croissance verte, le développement durable, la transition écologique. En fait, l'idée, c'est d'utiliser les outils du capitalisme pour contrer les effets pervers du capitalisme. Donc, par exemple, on va utiliser de plus en plus le mécanisme de marché pour protéger la nature du même marché, enfin des effets du même marché ailleurs. Donc c'est complètement absurde, ça n'a aucun sens, ça ne peut mener qu'à une impasse totale. Et effectivement, ce qui a motivé ce livre, c'était d'essayer de démystifier ce discours et de donner de la chair précise, montrer qu'est-ce qu'on fait. Quand on dit on fait de la croissance verte, qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc effectivement, j'ai été regarder précisément les différentes activités qui sont englobées sous le terme de croissance verte. Et là, on se rend compte que c'est juste, comme diraient les Anglais, business as usual, quoi. Ça change pas, malheureusement.
Je voulais vous interroger sur le fait que il y aurait une absurdité particulière dans tout ce qui se passe autour des agrocarburants, aussi bien d'ailleurs pour le coup d'un point de vue écologique, mais que d'un point de vue économique, puisque vous dites même qu'on dépense en millions de dollars dans la recherche et développement pour ces nouveaux biocarburants, des sommes qui pourraient d'abord servir à autre chose, mais finalement, pour des biocarburants qui vont poser plus de problèmes que finalement ils contribuent à solutionner. Ça, c'est une analyse au passage qui est extrêmement élulienne.
Oui. Hein. C'est cette idée de de cette, ce genre de dynamique technique qui est effectivement un peu autonome, qui se, où les techniciens et les scientifiques, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, donc j'ai pas un discours anti-science, mais la science telle qu'elle se pratique aujourd'hui est presque tout entière dans la technique, c'est-à-dire vise à répondre à des problèmes précis, particuliers, à des applications, doit être rentable, doit donner lieu à des dépôts de brevets, etc., donc doit être valorisé. Du coup, ça laisse plus beaucoup de place aux questionnements vraiment fondamentaux de la science fondamentale. Et aujourd'hui, du coup, effectivement, il y a une énergie et un argent énormes qui sont dépensés pour trouver des nouveaux carburants soi-disant verts et bio. Mais ces carburants posent... on va résoudre une question, effectivement, par exemple, là, les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est sûr que... Enfin, c'est même pas sûr, d'ailleurs, mais l'idée, a priori, que les biocarburants permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Admettons que ça soit vrai, c'est même pas si sûr que ça, une fois qu'on calcule bien, parce que c'est assez compliqué, mais admettons que ça soit vrai, ça pose en même temps, ok, on va limiter les émissions de gaz à effet de serre, et dans le même temps, on va détruire des forêts, détruire la biodiversité, et du coup, on va détruire toute vie sur Terre pour, avec le seul objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et ça va plus généralement, c'est un exemple parfait de ce que d'aucuns appellent aujourd'hui, mais encore une fois, Ellul avait analysé ça très fortement bien avant, mais ce que d'aucuns appellent aujourd'hui le solutionnisme technologique, qui est cette idée qu'à chaque problème, on va trouver une solution technique. Et ça, Ellul avait bien montré effectivement que non. Chaque réponse emmène d'autres questions, qui emmènent d'autres réponses, qui emmènent d'autres questions, qui emmènent d'autres réponses. Et c'est dans ce genre de dynamique comme ça, sans fin, que la technique nous fait prendre un chemin ou un autre. On ne sait pas trop lequel avant, mais après, on le voit.
Vous avez retiré les mots de la bouche, parce qu'effectivement, c'est typiquement une démarche ellulienne, c'est-à-dire qu'on va répondre par des solutions techniques à des problèmes créés par la technique qui, à leur tour, ces solutions techniques vont en entraîner d'autres, et on est vraiment dans un cercle vicieux. Ça, vous le montrez vraiment très très bien, là aussi, exemple à l'appui, et notamment dans ce domaine des biocarburants. Et parmi tous les exemples inquiétants que vous citez, je voulais vous demander si vous pouviez revenir pour les personnes qui n'ont pas encore lu votre livre sur les dangers des micro-organismes qui sont conçus artificiellement, notamment, il y en a beaucoup dont vous parlez, mais ceux, par exemple, qu'on va concevoir pour absorber des marées noires ou ce type de...
Alors, ce sont les dernières avancées des biotechnologies. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les biotechnologies, parce que comme je travaille sur les rapports au vivant, la biotechnologie, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend des organismes vivants, elle les modifie à visée purement instrumentale, utilitariste, pour transformer ces organismes en usines à produire différentes substances. Donc, quand on nous parle aujourd'hui, par exemple, de tout, justement, de l'économie verte, de quoi s'agit-il ? Ou de la bioéconomie, hein, c'est un nouveau terme, la bioéconomie. Enfin, ça a été utilisé avant dans une autre acception. Mais aujourd'hui, c'est au cœur, par exemple, du pacte vert européen. La bioéconomie joue un rôle très important. L'idée, c'est de remplacer par la biomasse tout ce qu'on produisait avant à base d'hydrocarbures, donc pétrole et gaz. Donc avec du pétrole, du gaz, on fabrique bien sûr des plastiques, en plus des carburants, on fabrique des plastiques. Là, maintenant, tout le monde le sait, on fabrique des engrais, on fabrique des tas de choses, des tas d'objets qui nous sont indispensables aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir fabriquer toutes ces choses-là à partir de biomasse. Biomasse, c'est un terme qui renvoie à tout ce qui vit ou a vécu sur Terre, mais qui n'est pas fossilisé. Donc c'est une catégorie d'un vivant complètement indifférencié, malléable, une espèce de stock de matériaux. Et on va fabriquer, par génie génétique, donc en bricolant des gènes, on va fabriquer des micro-organismes dédiés à transformer un type de biomasse particulier en un produit particulier. Par exemple, les sacs en plastique recyclables qu'on vous donne aujourd'hui chez les bio, c'est en général fabriqué à partir d'amidon de pommes de terre ou d'autres types d'amidon auxquels on applique des micro-organismes qui ont été spécifiquement conçus pour dégrader l'amidon de pommes de terre ou de maïs ou d'autres choses en plastique ou en autres produits industriels. Et donc, il y a énormément de recherches aujourd'hui sur la manière de créer des tas de micro-organismes qui vont être utiles à l'industrie. Et les recherches, encore une fois, sont absolument énormes, couvrent un champ énorme. Et un des problèmes, il y en a beaucoup, hein, c'est très dangereux, mais un des problèmes, c'est que, et des dangers, alors ça, c'est le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie de synthèse. La biologie de synthèse, comme son nom l'indique, on a utilisé ce terme-là comme la chimie de synthèse. Avec la chimie de synthèse, en fait, la chimie moderne, on a appris à synthétiser chimiquement des molécules. Eh bien, avec la biologie de synthèse, on apprend à synthétiser artificiellement des nouveaux organismes vivants grâce au génie génétique. Et on va utiliser pour ce faire, en général, des micro-organismes très simples qu'on connaît, qui sont bien étudiés, comme par exemple Escherichia coli, mais d'autres, qu'on va modifier, on va leur ajouter des gènes pour ajouter telle fonction ou telle fonction. Mais un des problèmes évidemment majeurs, si on a Escherichia coli qui a été transformé pour, à partir de biomasse, produire du carburant, ce qui existe, hein, c'est fait dans des bioréacteurs confinés, etc., mais ça existe. Imaginez que ces micro-organismes, pour X raisons, sortent des bioréacteurs dans lesquels ils sont confinés. Escherichia coli adore l'intestin des mammifères et des êtres humains, ce qui veut dire que le jour où ce genre de micro-organisme qui a été transformé pour synthétiser à partir de biomasse a été pour synthétiser du carburant, un succédané de pétrole, le jour où ces micro-organismes-là se baladent dans la nature et qu'on les attrape, parce qu'un jour ou l'autre, on va être en contact avec, eh ben, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. On va avoir des gastro-entérites pétrolifères, par exemple. Donc, c'est vraiment un danger. Ça fait partie des dangers concrets, pratiques de ce genre de recherche. Les mêmes chercheurs travaillent aussi sur... Alors, les micro-organismes, c'est quoi? Ce sont tous ces minuscules organismes qui sont en fait les microbes. Donc, ça veut dire bactéries, virus, micro-champignons, etc. On travaille aujourd'hui, d'ailleurs, c'est peut-être le Covid vient, on n'en est pas sûr, mais c'est une des possibilités qu'il soit sorti d'expériences de laboratoire. Ça a déjà existé, c'est pas sûr que ça soit ça, mais c'est possible. Et ça fait partie, encore une fois, des choses possibles, parce que les chercheurs aujourd'hui instrumentalisent tous ces virus pour faire des médicaments, des cosmétiques, des carburants, des plastiques, tout ce que vous voulez. Et la curiosité scientifique des chercheurs est telle qu'ils font des expériences qui, me semble, moi, devraient être interdites. Par exemple, il y en a qui ont réussi à recréer ex nihilo quasiment le virus de la grippe espagnole qui a fait quand même entre 40 millions et 50 millions de morts après la Première Guerre mondiale. Ils ont réussi à recréer le virus de la variole, maladie qui a été éradiquée il y a une vingtaine d'années, etc. Donc voilà, il y a des recherches qui sont quand même, me semble-t-il, très dangereuses, et il n'y a aucun texte international qui s'occupe de ça.
Dans le même ordre d'idée, avec ces micro-organismes qui sont fabriqués par l'industrie pétrolière, on sait généralement que justement l'industrie pétrolière au fond des océans, mais souvent on ne sait pas, enfin moi je l'ai appris en vous lisant, que là aussi il y a une utilisation de cette biologie de synthèse. Alors je crois que c'est pour faire... Je suis pas spécialiste, dissoudre,
ça concerne tout ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels, dont font partie par exemple les gaz et les pétroles de schiste, De quoi s'agit-il? Ce sont du gaz ou du pétrole qui sont pris dans des strates de pierre très comme des millefeuilles. Et du coup, pour arriver à attraper le gaz ou le pétrole, il faut dissoudre la roche. Et il y a beaucoup de recherches financées par exemple par BP et d'autres, de micro-organismes spécifiquement conçus pour aider à dissoudre les roches pour pouvoir libérer le pétrole ou le gaz de schiste. Donc ils envoient ça à 3000 mètres de fond pour essayer de récupérer du pétrole en plus.
C'est effrayant quand même. Effrayant. C'est effrayant. Votre livre, oui, oui, là, et votre livre fourmille.
Oui, malheureusement, j'ai passé quelques années dans.
Vous parlez du pessimisme des lus.
Quand j'ai découvert un peu toutes ces.
Ça n'a pas le soigné.
Tout ce qui se faisait, je dois dire que le sentiment qui m'a habité pendant très longtemps, après, petit à petit, je me suis un peu habituée en quelque sorte, même si c'est difficile, mais c'était un sentiment d'effroi. Voilà. Effroi était le terme qui décrivait le mieux la situation dans laquelle j'ai été pendant des années, et je suis toujours, quand je repense sérieusement à tout ça.
Et alors justement, il y a un domaine qui est d'actualité là, brûlante, si je peux me permettre, qui est lié à la question climatique. Là, vous expliquez les inconvénients de ce qu'on appelle les technologies à émissions négatives. Ouais. Est-ce que c'est vrai, par exemple, que les centrales, biomasse, toutes les bioraffineries, etc., que finalement, est-ce qu'elles sont neutres en carbone? Est-ce que c'est vrai, pas vrai?
De ce que je sais, ce n'est pas vrai.
D'accord.
Alors là, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse extrêmement attention. Comme d'habitude, ce sont les choix des mots. Aujourd'hui, on parle tout le temps de neutralité carbone. Les objectifs, c'est neutralité carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire on arrête d'émettre. Ça veut dire on peut émettre tant qu'on capture. Donc l'idée, c'est émettons. Si on plante une plantation de pin, par exemple, ce qui n'est pas une forêt, évidemment, mais une plantation de pin ou de peuplier, les pins et les peupliers en poussant vont absorber du carbone. Donc que font aujourd'hui les industriels? Aujourd'hui, donc, depuis les accords de Paris, de la COP21 et les textes européens du pacte vert européen de 2019, etc. Donc tous les textes, les grands textes qui décident, qui fournissent le cadre juridique de nos actions environnementales, expriment les objectifs en termes de neutralité carbone pour 2050. C'est ça l'idée. En 2050, on sera neutre en carbone. Et du coup, ce qui se développe le plus, ce ne sont pas des efforts pour limiter les émissions. Ce qui se développe le plus, ce sont des efforts pour absorber plus de carbone. Et donc, on a, là encore, les scientifiques qui font preuve d'une ingéniosité exceptionnelle pour trouver des tas de solutions pour absorber du carbone. Donc, évidemment, planter des arbres, mais il y a aussi des technologies qui permettraient, soi-disant, d'absorber du carbone. Donc, il y en a qui imaginent des grands filtres qu'on mettrait en plein vent pour absorber le carbone atmosphérique. Il y a l'idée qu'on va mettre aussi des espèces de dispositifs à la sortie des raffineries. Donc, c'est ça l'idée. Une bioraffinerie, donc, soi-disant, une bioraffinerie serait neutre en carbone puisqu'elle va brûler de la biomasse. Et la biomasse, elle émet peu de carbone au moment de la combustion. Et en tout cas, vu qu'en poussant, elle a absorbé du carbone, en brûlant, elle relâche ce carbone qu'elle avait absorbé. Donc c'est neutre en carbone puisque elle avait absorbé quelque chose qu'elle relâche, soi-disant. Et donc si à ce genre de raffinerie on ajoute un dispositif qui capture le carbone à la sortie des cheminées, on va avoir des technologies à émissions négatives, c'est-à-dire un résultat net, moins de carbone dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'on fait du carbone en question? Évidemment, il faut beaucoup d'énergie, on va le comprimer sous forme liquide, et là on cherche des formations géologiques, des anciens puits de mine désaffectés, des choses comme ça, où on va injecter du carbone liquide à 1000 mètres de fond, comme ça, il ne sera plus dans l'atmosphère. Après, je ne vous dis pas ce qui se passe au niveau géologique. Évidemment, une fois qu'il y a du carbone liquide sous pression, donc énorme, dans des puits de mine désaffectés, évidemment, ce n'est pas neutre géologiquement parlant, et ça commence juste à être fait, ça ne fait pas longtemps du tout, il y a quelques expériences qui ont quelques années, alors que c'est censé tenir à l'échelle du temps géologique, c'est-à-dire des centaines, des milliers d'années. Au bout de quelques années, on a déjà des problèmes, on a des fuites de carbone, on a des problèmes sismiques, on a des... Enfin bref, évidemment, là encore, une solution qui paraît simple, voire simpliste, va entraîner 10 nouveaux problèmes, des problèmes sismiques, des problèmes, autres types de problèmes. Mais les ingénieurs et les scientifiques nous disent, bon, chaque chose en son temps, là on a déjà résolu le problème des émissions de carbone, on peut les diminuer. Maintenant, on va s'occuper des problèmes sismiques, on va trouver des solutions pour consolider les sols, etc. Et voilà comment la technique s'engendre elle-même, comme Ellul l'a si magistralement montré.
Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit, à un ingénieur qui vous dit, Madame Torchman, vous êtes manifestement contre l'innovation scientifique et technique?
Oui, je répondrai oui. Enfin, oui. Pas de manière totale et absolue, évidemment, ça serait stupide, mais disons méfiance. Il faut regarder ce qu'on fait, le sens de ce qu'on fait. Et c'est pas ce mot innovation est devenu vraiment un mot magique. Si c'est neuf, si c'est innovant, c'est bien par nature. Non, c'est pas bien par nature. Il faut voir ce qu'on fait. La 5G, c'est neuf, c'est pas sûr que ça soit bien. On a énormément de techniques qui sont dangereuses aujourd'hui, et c'est pas parce qu'elles sont nouvelles qu'elles sont bien. Donc oui, j'assumerai assez facilement d'être traité d'amiche.
Voilà ce qui était en arrière-plan. Et pour rester sur le même terrain, vous n'avez pas peur de vous faire traiter de, au sens propre, hein, de réactionnaire, parce que vous dites finalement que, en gros, hein, je caricature, mais jusqu'à la fin du 19e, on peut dire que le vivant ou les choses vivantes, pour le dire simplement, étaient en dehors de la sphère marchande. Je me réfère à la critique, le sous-titre, hein, critique de l'économie marchande, de la marchandisation. Donc finalement, c'était mieux avant.
De ce point de vue-là, je dirais oui, oui. Avant les biotechnologies, certainement, c'était mieux. L'agriculture, avant l'agriculture industrielle, c'était mieux pour la nature. Après, effectivement, les paysans avaient des vies très dures, et donc je ne suis pas contre toutes les innovations techniques. Un petit tracteur pour aider le travail du paysan, pourquoi pas, évidemment. Entre un petit tracteur et des moissonneuses-batteuses à 300 000 euros qui pèsent 25 tonnes et qui ressemblent à des tanks, il y a peut-être une différence. Donc il faudrait se poser les questions aussi du type de technique. Et là, je suis élulienne, mais je suis aussi illichienne. Et Ivan Illich s'est beaucoup interrogé sur le type de technique, et en disant il existe des techniques qui sont conviviales, j'utilise ces termes, au sens où elles accroissent le potentiel de l'action humaine, le potentiel de l'imagination, de créativité et de l'action. Donc ces techniques-là sont bonnes, elles nous enrichissent, elles nous permettent une plus grande palette de l'action humaine, et de ce point de vue, il ne faut pas tout jeter. Par contre, il y a des techniques qui font exactement l'inverse, qui nous asservissent, qui nous enlèvent toute autonomie, parce qu'elles font tout à notre place, et du coup, on finit par désapprendre tout ce qu'on savait faire avant. Regardez, aujourd'hui, les paysans savent plus faire de compost, par exemple, alors que ça faisait partie des... Il y avait des tas de savoir-faire paysans qu'on redécouvre aujourd'hui sous le terme d'agroécologie, mais qui étaient connus depuis des siècles et des siècles par des générations de paysans. Et avec l'agriculture industrielle, ces savoir-faire se sont perdus. De ce point de vue-là, je dirais que c'était mieux avant, même si, évidemment, je vais nuancer quand même mon propos. Les gens mouraient éventuellement à 40 ans ou 50 ans. Il y avait une mortalité infantile absolument phénoménale, etc. Je ne suis pas contre tout progrès, mais il me semble qu'il faut les examiner chacun pour voir ce que ça nous fait en tant qu'être humain, en tant qu'individu, mais ce que ça nous fait aussi collectivement en tant que société. Regardez par exemple le numérique, l'extension absolument phénoménale du numérique. On va nous dire que la technique est neutre. Regardez comme ça a changé nos vies de manière incroyable. Les rapports humains, les gens se parlent de moins en moins, on n'a plus l'occasion de parler, même pour toutes les petites démarches de la vie quotidienne. Avant, c'était l'occasion d'échanger quelques mots avec la boulangère, avec l'épicier, j'en sais rien, avec, avec le fonctionnaire borné même de la mairie. Aujourd'hui, on se retrouve derrière un ordinateur.
Avec le passant, quand on ne connaît pas une ville, on s'adresse
voilà, pour demander son chemin. Maintenant, moi, je continue à faire ça. Et vous savez ce qu'on me répond ?
Bien sûr, je le sais, parce que c'est arrivé. Ça
m'est vous n'avez
arrivé,
pas de GPS ? Voilà. Non, je n'en ai pas. Voilà. Je préfère regarder une carte et essayer d'apprendre où je suis, plutôt que de suivre aveuglément. On me dit, tournez à droite, tournez à gauche, vous êtes arrivé. Voilà.
Ça va plus loin même. Une amie m'a raconté qu'à Paris, elle a voulu aider des gens qui cherchaient. Ils étaient deux, un couple, elle s'est approchée d'eux. Ils avaient un téléphone, ils l'ont envoyé promener disant, on n'a pas besoin de vous, on a notre appareil.
Voilà. Donc c'est inquiétant. Il faut s'interroger sur les effets que ça a individuellement et collectivement. Et là, donc je dirais que Illich, de ce point de vue-là, est aussi très donne des outils pour vraiment s'attaquer à ce problème-là en donnant des critères qui me semblent assez intéressants pour départager les techniques qui nous aident à accroître notre autonomie et au contraire les techniques qui nous rendent dépendants et assistés et imbéciles. Voilà.
Vous restez dans la même filiation de façon entre eux, Élul et Illich, c'est parfait. Donc c'est tout à fait ça. Il y avait quelque chose aussi parmi les exemples que vous donnez qui sont inquiétantes, même si concernent peut-être, indirectement et concernent beaucoup de monde, c'est les semences augmentées, ce qu'on appelle aussi les ressources phytogénétiques, et c'est lié aussi à la question de l'appropriation, parce que vous montrez bien les vases communicants. Si certains groupes, les quatre, je pense qu'ils sont quatre, parce qu'ils font les fusions, les Big Four, si elles s'approprient, encore le vivant, le brevet, etc., ça veut dire que d'autres sont dépossédés, forcément. Il y a expropriation de l'autre côté.
Bien sûr. Parce que pour ces biotechnologies, quelle est la matière première de la biotechnologie ? Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui, d'ailleurs c'est encore nouveau, toujours attention au terme, on appelle maintenant ça des ressources génétiques. Parce qu'on va travailler sur des gènes pour les modifier, les transformer, pour fabriquer ces fameux micro-organismes ou pour fabriquer des nouvelles semences, des nouvelles variétés végétales qui, évidemment, vont nous aider à lutter contre la sécheresse, les inondations, les sols pauvres, la pollution aux nitrates, tout ce que vous voulez. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées en particulier donc, par ceux qu'on appelle les Big Four des semences, c'est-à-dire l'oligopole des semences, qui sont... Il y a une concentration incroyable du secteur. Il y a 6 ans, ils étaient encore 6. Aujourd'hui, ils sont 4, depuis que Bayer a racheté Monsanto. Donc, on a Bayer, Monsanto, on a DuPont, Dow. À chaque fois, remarquez que ce sont des industries chimiques, au début, qui sont devenues. Donc, c'est quand même intéressant à noter. Ce sont les grands chimiquiers mondiaux qui possèdent le marché des semences industrielles. Pas les petites semences paysannes, mais les semences industrielles. Ils sont 4. Syngenta, qui a été racheté par un groupe chimique chinois, Monsanto Bayer, DuPont Dow et BASF, autre grand chimiquier. Et comment faire de l'argent, comment développer les biotechnologies si le vivant n'est pas appropriable ? Avant, jusqu'en 1980, il était interdit de déposer des brevets sur toute matière vivante, parce que le vivant était hors du domaine de la brevetabilité. Mais avec les découvertes scientifiques sur les bricolages génétiques, c'était au début des années 70, il y a eu des perspectives de profit absolument phénoménales par l'industrie, qui ont fait un lobbying intense auprès des gouvernants en disant « mais on ne peut pas développer nos inventions si on ne peut pas se les approprier ». Donc tant que le vivant, tant qu'on ne peut pas déposer des brevets sur les gènes, on ne va pas développer l'industrie des biotechnologies. Résultat, en 80 aux États-Unis, en 98 en Europe, on a eu, et ensuite en 95 déjà par l'OMC, ça veut dire dans le monde entier, tous les pays qui adhèrent à l'OMC, c'est-à-dire la grande majorité des pays du monde, sont obligés de développer des systèmes de propriété intellectuelle sur le vivant. Et du coup, toutes ces grandes entreprises qui viennent bricoler des semences pour nous dire, voilà, maintenant je vous donne des semences qui vont résister à la sécheresse, vous allez voir, ou alors enrichies en nutriments, comme ça on va sauver l'humanité de la faim. Enfin bon, ils ont toujours un discours évidemment extrêmement positif. En fait, ils font ça pourquoi ? Parce que ça leur permet de déposer des brevets sur des séquences génétiques. Et aujourd'hui, on a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de gènes et de séquences génétiques qui sont propriétés privées de ces grandes firmes et des petites start-up de biotechnologie. Et le problème, moi, donc en travaillant sur cette question, que j'ai quand même trouvé, enfin, qui me semble être peut-être la critique la plus forte, me semble-t-il, qu'on peut faire aux OGM, c'est celle-là. C'est-à-dire que les OGM, d'un point de vue de la santé, on n'est pas très sûr des effets que ça fait. Peut-être que ça peut rendre malade les êtres humains ou les bestiaux, on n'est pas très sûr. Par contre, que ça exproprie les paysans de la possibilité de faire leurs graines, ça, on en est sûr, puisque comme ce sont des graines sous brevet, on n'a pas le droit de les ressemer. Or, c'était quand même une pratique traditionnelle depuis les débuts de l'agriculture, il y a 12 000 ans. Les paysans gardaient leurs graines, les sélectionnaient, sélectionnaient les meilleures, les replantaient, et du coup, ils étaient autonomes. C'est toujours la même chose. À partir du moment où ce sont les industriels qui se sont appropriés les semences, eh bien, les paysans sont obligés d'acheter des semences tous les ans et ils n'ont plus le droit de faire leurs graines. Et la manière dont évolue la science aujourd'hui est particulièrement inquiétante, c'est qu'au début du bricolage génétique, on prenait un gène, par exemple, le gène de la résistance au froid chez le saumon, qui est un poisson donc, qui vit dans les eaux froides, et on le greffe à une tomate ou à une fraise. Comme ça, on va pouvoir cultiver des fraises ou des tomates plus haut en latitude, et parce qu'elles résisteront mieux au froid. Aujourd'hui, on est bien plus loin dans les bricolages génétiques, parce que les chercheurs s'attaquent aux processus métaboliques fondamentaux du vivant. Par exemple, il y a des chercheurs, des groupes de recherche, largement financés par ailleurs par la fondation Gates, hein, qui est partout dans ce genre de recherche, pour améliorer la photosynthèse. Vous pouvez remarquer, la photosynthèse n'est pas un processus assez efficace. Sans photosynthèse, il n'y aurait pas de vie sur Terre, mais bon, c'est quand même pas assez efficace. Donc, il faut la booster, c'est leur terme. Et du coup, ils travaillent pour rendre la photosynthèse plus rapide, plus efficace. Ça veut dire que les gènes qui vont breveter, ce sont des gènes qui codent pour le processus de la photosynthèse. Pareil pour la fixation de l'azote par les plantes. Ils vont breveter les séquences génétiques qui interviennent dans le processus métabolique de fixation de l'azote par les plantes. Résultat, ces industries sont en voie, on n'est pas encore là, mais la direction générale est quand même celle-là, ces industries sont en train de s'approprier lentement mais sûrement ces processus qui sont quand même au fondement de la vie sur Terre. Hein, et on n'est pas à l'abri... c'est une dystopie, mais malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça. Un jour, de voir Bayer, Monsanto ou leurs collègues nous dire « Ah non, la photosynthèse, c'est à moi ». On n'en est pas encore là, mais la direction que l'on prend est celle-là.
Je reviens sur un élément du point de départ. Une de vos spécialités, une de vos thématiques, c'est les OGM. Vous montrez qu'en fait, le discours consistant à nous dire, mais en fait, finalement, les OGM, c'est fait pour nourrir les milliards d'humains sur la planète et on ne pourra pas s'en passer. Finalement, vous nous montrez que c'est un discours de propagande, ça, que les OGM ne servent pas d'abord à nourrir la planète.
99% des OGM cultivés sont des OGM, en fait, sont des plantes industrielles. Donc, ils vont servir à faire un... Bon, indirectement, elles vont nous nourrir parce qu'elles vont servir à faire de l'aliment pour le bétail, comme le soja d'Amérique du Sud, qui est à l'origine de la déforestation massive de l'Amazonie, au passage. Et donc, c'est essentiellement pour faire des aliments pour le bétail, du coton et des biocarburants, hein, ou des arbres à croissance rapide pour faire de la biomasse. Donc, 99% des cultures OGM aujourd'hui, ce sont des plantes industrielles qui ne sont pas destinées à l'alimentation humaine directement. Donc le discours qui vient nous dire c'est pour nourrir la population humaine croissante, c'est tout simplement faux. Donc il suffit de regarder les chiffres donnés même par les lobbies des OGM qui donnent quand même des statistiques sur l'évolution des surfaces cultivées. Voilà, c'est juste une contre-vérité totale. Et là encore, voilà, il me semblait que c'était important d'aller voir précisément ce qui se fait, ce qu'on fait, pas simplement ce qu'on dit, mais ce qu'on fait réellement. Et c'est là qu'on voit vraiment ce qui se passe.
Alors, en conclusion, nous allons rester sur une note optimiste, ou plutôt passer à la conclusion. Vous avez, sinon, donné une solution et une seule, ça serait bon, ça serait, mais vous avez donné des pistes. Qu'est-ce qui fait que, justement, il ne faut pas désespérer, que vous vous maintenez grand ouvert la porte?
D'abord, vivre désespéré, c'est quand même assez difficile. Donc, on essaye toujours d'essayer de trouver des raisons d'espérer. Et puis, donc, une bonne partie de mon livre est consacrée à l'agriculture et l'autre partie aux politiques de protection de la nature. Donc, toujours à nos relations avec la nature. Hein, c'était vraiment ça, mon sujet. Et du coup, pour éviter que les gens qui referment mon livre aient envie de se suicider à la fin de la lecture, je me suis dit quand même, c'est pas possible, il faut que je donne des choses positives aussi, des raisons justement d'espérer. Et il se trouve que en agriculture, on sait ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, par exemple, depuis 20 ans, tous les rapporteurs du droit à l'alimentation de l'ONU disent tous la même chose. Ce ne sont pas des dangereux révolutionnaires, ce sont les rapporteurs du droit à l'alimentation de l'ONU. Disent tous la même chose, il faut urgemment sortir de l'agriculture industrielle et généraliser l'agroécologie, l'agriculture biologique, une petite agriculture locale, paysanne, familiale, ce que propose par exemple en France la Confédération paysanne, au niveau international la Via Campesina, et tout ce genre de syndicats agricoles. Et moi, il me semble que autant les questions d'énergie, par exemple, sont beaucoup plus complexes à traiter, à savoir comment sortir du pétrole aujourd'hui, vu notre niveau de consommation énergétique, c'est quand même très compliqué. Autant au niveau de l'agriculture, on a les solutions. Je ne dis pas que c'est facile à mettre en œuvre, parce que ça exigerait des réformes agraires certainement pas très populaires, enfin bon, plein de choses. Un démantèlement du droit de la propriété intellectuelle sur le vivant, une remise en question de la mondialisation des produits agricoles, enfin bon, c'est quand même du lourd, mais on sait ce qu'il faudrait faire, c'est généraliser ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie ou l'agriculture paysanne. Ça permet de nourrir les populations parce que c'est une agriculture vivrière. Aujourd'hui, l'agriculture industrielle utilise 70% des terres, 80% des ressources en eau, et produit même pas 25% de la nourriture consommée dans le monde. À l'opposé, l'agriculture paysanne utilise 25% des terres, 20% des ressources en eau, et quasiment pas émettrice de gaz à effet de serre, ne détruit pas la biodiversité, au contraire, elle la conserve, et nourrit entre 70% et 80% de la planète. Donc je sais pas, c'est vraiment des chiffres tout simples, et ça suffit à remettre un peu les choses en place, ça vaut peut-être mieux qu'un long discours. Et encore une fois, donc, aux plus hautes instances de l'ONU, on dit ça. Mais évidemment, et moi, ce qui me semble, oui, juste pour finir donc, sur ce côté un peu optimiste, je me dis qu'on sait ce qu'il faudrait faire, on pourrait le faire si on avait la volonté politique, et ça pourrait être une première étape, sachant que quand même le système alimentaire, c'est-à-dire agricole plus agroalimentaire, aujourd'hui est à l'origine de quasiment un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, sans parler de toutes les maladies chroniques, des cancers, de l'obésité, des diabètes, de tout ce que vous voulez, de la perte de biodiversité, de la pollution des eaux. Enfin bon, on connaît les ravages de l'agriculture industrielle. Et ça pourrait être un premier pas qui nous permettrait d'avancer quand même grandement. Et puis après, ben, on apprendra en marchant. Peut-être déjà, ça serait quand même super. Ça permettrait de reprendre contact, de réorganiser les territoires de manière plus locale, avec des circuits courts, en arrêtant de polluer, retrouver de l'autonomie. Et là, à partir de là, eh ben, on pourrait étendre petit à petit, ça pourrait faire des expériences qui nous permettraient de penser comment on modifie aussi nos systèmes énergétiques, nos autres systèmes productifs, etc. Parce qu'évidemment, on ne va pas réussir à tout faire en un seul coup. Comme ça, ce n'est pas possible. Mais donc, je me disais que commencer par l'agriculture, dans la mesure où, en gros, on sait ce qu'il faudrait faire, ça serait un super premier pas. Et donc, dans mon dernier chapitre, j'esquisse un peu les grandes lignes des mesures, enfin, les grands types de mesures qu'il faudrait prendre pour généraliser l'agriculture paysanne et sortir de l'agriculture industrielle. Voilà.
Alors, je crois que nous allons rester sur cette note optimiste. Oui. Et une fois encore, nous remercions Madame Torjman pour cette conférence, cet exposé remarquable. Écoutez, et rappeler qu'elle mérite amplement le prix que nous allons lui attribuer. Merci.
Écoutez,
encore.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci.